parler politique avec la démission annoncée du directeur de l'OPH 15 jours après sa nomination. On ira voir les peintures tropicales de Pierre Motari. Et puis du cyclisme et des spectacles, c'est en fin d'édition. Et ce journal, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
On commence donc par cette démission.
Une démission très attendue, celle de Yann Jambé. Il avait été nommé voilà une quinzaine de jours par Moëté Brotherson pour prendre la tête de l'OPH. Mais Tahiti Info avait rapidement révélé que cet ancien d'Imagine Promotion était au centre d'une procédure judiciaire plutôt délicate. Yann Jambé est en effet accusé par son ancien employeur d'avoir détourné environ 6 millions de francs de ses sociétés en imitant sa signature. L'intéressé avait reconnu une partie des faits devant le tribunal civil qu'il avait condamné à rembourser l'année dernière et la justice pénale l'a convoqué en début d'année prochaine. Dans ce contexte, le Tapoura avait interpellé le gouvernement sur la cohérence de cette nomination et des discours sur la probité. Les élus Tavigny en comité de majorité avaient à leur tour demandé son départ. Moëté Brotherson, lui, avait promis de s'exprimer à son retour de Paris. C'est ce qu'il a fait cette nuit en confirmant avoir reçu la démission du directeur. Le président a tout de même regretté au micro Tahiti Info et de Polynésie la Première le lynchage qu'aurait subi Yann Jambé, qui selon lui était le bon candidat pour le poste. Pas davantage de commentaires, le gouvernement aurait déjà d'autres noms pour prendre la direction de l'OPH, mais son président ne les a pas révélés pour l'instant.
Et un mot d'économie maintenant.
Et de pouvoir d'achat avec les derniers relevés de l'ISPF, des relevés qui indiquent en août une baisse de l'indice des prix à la consommation d'environ 0,3%. Une baisse légère donc, mais le fait est que l'inflation de ces deux dernières années a eu plutôt tendance à se tasser. Les prix n'ont augmenté que de 2,2% sur un an, alors que ce chiffre dépassait les 8,5% l'année dernière. Attention tout de même, les bons résultats de ce mois, ou plutôt du mois dernier, sont surtout dus aux baisses de tarifs dans les transports et notamment l'aérien. Le nerf de la guerre, c'est-à-dire les produits alimentaires, eux continuent de grimper, plus 0,6% sur le mois et plus 7,2% sur 12 mois glissants.
Technologie maintenant avec ces trois applications gratuites pour apprendre le tahitien.
C'est Speak Tahiti, Paraparao Tahiti qui les a présentées ce vendredi matin. Des applis développées par Vanessa Raffin et Sébastien Christian de la plateforme Ireo et qui sont gratuites. Leurs noms Tataou, Maramarama et Pere Oeha proposent un apprentissage des chiffres avec une calculatrice, une navigation dans les mots et phrases en tahitien et un jeu pour évaluer son apprentissage. C'est ce qu'explique la fondatrice et directrice de Speak Tahiti, Eyura Itaeteta.
Alors il y a une calculatrice, la première calculatrice en tahitien. Il y a une sorte de dictionnaire, je dis sorte parce que c'est pas totalement un dictionnaire, c'est vraiment un navigateur, on va naviguer dans la langue avec les phrases et les mots, et il y a un jeu. Donc en fait, tous les trois sont liés pour apprendre les mots, les phrases, et puis la contextualisation. Par exemple, le mot afata, qui signifie boîte, en fait, selon une contextualisation, ça ne veut pas juste dire boîte. Afata, par exemple, c'est la télévision, etc. Donc en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive justement à comprendre, au-delà du concept, mais la manière de penser de la langue.
Voilà, les applis ont été développées d'abord pour les enfants en s'appuyant sur des annexes de la DG2E qui ont permis de construire un parcours didactique. Le parcours est ensuite généré par des algorithmes qui s'adaptent au rythme d'apprentissage de chacun, enfant comme adulte. Ireo développe ce genre d'application partout dans le monde avec déjà plusieurs outils disponibles, notamment au Vanuatu, en Amérique du Nord ou à Hawaï.
Ireo est une plateforme numérique qui propose à toutes les communautés de déployer des applications dans leur langue. Donc effectivement, on a déployé en Amérique du Nord, on a déployé à Hawaï. Là, on essaye de déployer en Afrique aussi. Ce qu'on est en train de faire, en fait, en tahitien, on le fait ailleurs. La grosse prochaine étape, ce serait de proposer tout ce qu'on fait ailleurs. Ben, nous, notre objectif, c'est quand même encore d'ici 2025, plus de 300 langues à déployer. Donc voilà, il faut en déployer des langues.
Et une fois téléchargées, ces applis sont accessibles avec ou sans connexion. Elles sont déjà disponibles sur Android. Pour les utilisateurs d'iPhone, il faudra attendre lundi ou mardi pour les trouver sur l'Apple Store.
Et on parle d'art avec Pierre Motaï.
Oui, Pierre Motaï, a.k.a. Tropicart, qui va exposer une vingtaine d'œuvres à la galerie d'art Domus Est du centre Tamanu à Punaouya. Le vernissage a eu lieu hier et c'est une grande première pour cet artiste de 28 ans formé à l'architecture d'intérieur et qui s'est fait depuis longtemps une place dans le graph et le street art, des activités qui se mêlent parfaitement. C'est ce qu'il explique au micro de Vetcher et Perrer.
De plus en plus, les gens dans leur foyer, ils ont besoin un peu de redonner vie à leur intérieur. En parallèle de ça, ben, je suis artiste. Et en gros, le nom de mon ancienne artistique, c'est Tropic Art. Moi, je me focalise plus sur le côté tropical, côté naturel. Et les gens, ben, au sein même de la maison, ben, ils demandent d'avoir de la déco, mais déco, on dit jungle, tropique. Donc voilà, donc ça se relie un peu mon activité d'artiste peintre et architecte d'intérieur.
Une activité qu'il vit intensément et dans laquelle il navigue au feeling, je cite, et qu'importe si l'emploi du temps est parfois un peu chargé.
Ça bouge beaucoup. Je peux me retrouver à papeter, le lendemain, je suis Tavera ou pour un chantier grave, j'avoue que c'est la galère, mais moi j'aime bien aussi quoi. Avant c'était du feeling, c'était à l'instinct, je prenais ma voiture, je vais sur le chantier, je me rends compte en fait j'avais oublié des trucs et je me suis imposé un peu une certaine organisation, mais des fois ben j'oublie. Ma routine c'est ça quoi. C'est la gestion qui compte en tant qu'entrepreneur, ben le fait de vouloir toucher un peu à tout, mais le problème c'est en fait pour l'instant je suis tout seul et donc j'ai une certaine difficulté à respecter les délais.
Et les œuvres de Pierre Tropicart exposées dans cette première exposition sont toujours très oniriques et très végétales. Il les a réalisées au pinceau, un nouvel outil pour lui, mais comme d'habitude, Pierre Motahi est prêt à beaucoup travailler pour exceller dans la discipline.
Je commence maintenant à travailler avec le pinceau. C'est dû de basculer bombe à pinceau parce que c'est plus la même technique, c'est plus les mêmes outils pour toi. Je devrais aussi voir un peu de tout dans ce que je fais, c'est-à-dire le pinceau. Et là, je suis en train de me lancer sur l'aérographe. En fait, c'est comme de la bombe. Mais c'est du travail au détail.
Et voilà, en attendant de pouvoir conquérir les galeries internationales, vous pourrez croiser les œuvres de Pierre Motahi aka Tropicart dans les rues d'Alloué pour les fêtes de fin d'année. Son exposition à la galerie Domus S et au centre Tamanou est-elle visible jusqu'au 8 octobre.
Et puis toujours côté culture, cette conférence à Alloué.
Et oui, la maison James Norman Hall qui accueille vendredi le journaliste et écrivain britannique Stephen Clarke, un des spécialistes de l'auteur américain. Son intervention portera non pas sur les révoltés de la Bounty trilogie qui a rendu James Norman Hall célèbre, mais sur deux autres ouvrages, Kitchener's Mob et The Lafayette Flying, il faut que je retravaille mon anglais, qui sont tous deux des mémoires de guerre. L'auteur américain a en effet servi pendant plus d'un an dans l'infanterie britannique pendant la Première Guerre mondiale avant d'y retourner pour se joindre à l'escadrille Lafayette. Deux ouvrages donc coécrits avec Charles Nordhoff qui seront décryptés, expliqués, comparés à ceux d'autres auteurs comme Hemingway ou Robert Graves. Deuxième conférence quelques jours plus tard, toujours avec Stephen Clarke, cette fois sur son propre ouvrage intitulé « Français, je vous aime, ce que les Rosbif pensent vraiment des Froggies ». Rendez-vous donc le 15 septembre, c'est ce soir à la maison James Norman Hall, et le 6 octobre pour la deuxième conférence. Les infos et les réservations, c'est au 40 50 01 60.
On va parler du cyclisme qui est en fait.
Oui, à partir d'aujourd'hui, les amateurs de la petite traîne vont envahir les routes du Fénois. Pendant une semaine, la fédération organise trois événements en résonance régionale. Le premier, la Pacific Cup, va être lancée cet après-midi. Une coupe du Pacifique qui réunit cette année des athlètes des Samoa, des îles Cook, de Guam, de Fidji et de Nouvelle-Calédonie. Au programme sur ce premier événement, deux jours de compétition avec, pour se mettre dans le bain, un contre-la-montre individuel de 29 km cet après-midi à Itia, puis une épreuve en ligne de 100 km prévue demain entre Alloué et ITIA de nouveau, des épreuves que la fédération tahitienne veut mettre en avant pour créer de l'émulation autour de la discipline et faire en sorte de l'inclure aux Jeux du Pacifique. L'autre rendez-vous et non des moindres, c'est le Tour Tahiti Nui qui débutera quant à lui lundi. Cette année, ils sont 45 cyclistes, des Tahitiens, des Samoans et des Calédoniens à s'aligner sur cette 27e édition. Au total, ils devront s'affranchir de 8 étapes sur 6 jours entre Tahiti et Moorea. Le coup d'envoi sera donné à 7h30 lundi à la mairie de Punaoa, en même temps que le troisième événement prévu par la Fédé, le Tour des Vahinés, avec cette année 7 étapes, une dizaine de concurrentes, dont quelques Calédoniennes qui affronteront nos championnes locales.
Et puis on finit par une foule de spectacles dans les prochains jours.
Oui, d'abord avec le grand événement du week-end, vous le savez, Anne Roumanoff qui débarque pour deux soirées samedi et dimanche au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Elle offre même au public de Tahiti un spectacle inédit, l'expérience de la vie, du rire encore mercredi et jeudi au Motu de l'Intercontinental Tahiti pour deux soirées de stand-up en très bonne compagnie. Sophia Bella Abbès, Ayoub Marceau, Nash, Farid, Chamek, Kino, PV, c'est toute la nouvelle génération du rire français qui est réunie au sein de la troupe du Jamel Comedy Club. A noter aussi la reprise de la pièce Oh My, Oh My de Titawa Porché au Petit Théâtre ce soir et demain. Alors les places pour toutes ces soirées sont à retrouver sur ticketspacifique.pf, dans les magasins Carrefour et ici à Farioute. A noter aussi à partir de jeudi cette fois au Petit Théâtre une pièce comique et qui nous vient de Métropole où elle a connu un vif succès. Un conseil d'amis, c'est son nom, avec Marie Fuguin, Manuel Gélin, Juliette Ménard et Christian Vadim. Ils étaient sur notre plateau ce matin et leur interview est à retrouver sur la page Facebook de Radio 1. Voilà, on arrive au bout de ce journal. Kevin n'en pouvait plus. C'était, il était sur le point d'abandonner. Tout
ah
simplement.
Non, parce que là, on va passer au rugby.
Ah oui, et voilà, et là, avec Gilles Lafitte. Et
exactement.
Ça, c'est tout de suite.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération polynésienne de rugby.
Et comme chaque jour, après votre journal de la mi-journée, on passe donc au rugby avec Gilles Lafitte, directeur technique de la Fédération polynésienne de rugby, pour faire un point sur cette Coupe du Monde de rugby à 15 2023 qui se déroule en métropole. Yolana, Gilles.
Yolana, Kevin.
Comment ça va aujourd'hui?
Eh bien, écoute, on était resté quand même hier sur une équipe de France qui a été accrochée par l'Uruguay, hein, un peu déçu, mais bon, voilà. Et aujourd'hui, on a assisté à un match...
D'anthologie.
Oui, enfin, d'anthologie, non, mais...
Est-ce qu'on peut dire que c'était une fessée?
Oh, j'aime pas trop utiliser ce terme, mais un peu, je dirais, sans partage. Hein, donc,
exactement.
Face à des Namibiens qui n'ont pas pu du tout poser leur jeu. Ils étaient bien moins accrocheurs que l'Uruguay. Ils ont une série de 23 défaites quand même, ces Namibiens. Malgré tout, ils sont derrière, ils représentent quand même l'Afrique. Hein, ils sont derrière la grande équipe nation d'Afrique du Sud. Et je pense que de toute façon, ils vont être plus concentrés sur les matchs futurs, notamment face à l'Uruguay.
Exactement. On vous rappelle donc ce match, c'était ce matin, Nouvelle-Zélande contre la Namibie. Le score à la mi-temps, 38-3. Donc déjà là, ça a annoncé la couleur. Et puis fin du match, 71-3. De nombreux essais, de nombreuses... la totale, quoi. On s'est régalé sur ce match-là. Est-ce que pour toi, c'est un score qui annonce quand même la supériorité, je vais y arriver, de la Nouvelle-Zélande sur cette Coupe du Monde ou pas?
Oui, bien sûr, évidemment. Hein. La Nouvelle-Zélande reste, les All Blacks restent les All Blacks. Ils ont respecté la Namibie, ils ont bien posé leur projet de jeu, ce qu'on a eu un peu de mal, nous, à faire avec l'équipe de France. Bon, il y a une domination dans tous les secteurs de jeu, hein, que ce soit physique, technique, comme on dit, une domination sans partage, voilà, même sur tous les secteurs, notamment la touche, la mêlée, sur les ballons portés, on sent une force collective. Voilà, et donc du coup, la Nouvelle-Zélande sera là en quart de finale et peut même aller au bout. Donc on connaît leur force collective.
Exactement. En attendant, pour cette poule A, hein, dont fait partie la Nouvelle-Zélande et la France aussi, je vous rappelle que la France est toujours première du classement avec 8 points, puis la Nouvelle-Zélande juste derrière avec 5 points à égalité avec l'Italie. On va parler aussi un petit peu, mais très rapidement, des matchs.